Chers auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les causes et les pistes de solutions de lutte contre la dégradation du sol en RDC? Nous en parlons avec le chef de travaux Joseph Rigen Falassi. Il est enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Bonjour monsieur le chef de travaux et bienvenue dans Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions par ces mêmes numéros, c'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Jean Bopé qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. Nous dit ceci, l'État congolais n'envisage aucune politique de lutte contre les érosions dans l'ensemble du territoire national, particulièrement à Lubumbashi. Gardez l'écoute, monsieur Rigen. Gardez l'écoute. On vous donne la parole tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Voilà, je disais, nous lisons les commentaires de monsieur Jean Bopé qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. Il nous dit ceci. L'État congolais n'envisage aucune politique de lutte contre les érosions sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à Lubumbashi, où des têtes d'érosion se développent dans plusieurs quartiers. Mais qui pense comment éradiquer ces érosions qui vont emporter des édifices dans la ville de Lubumbashi? Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonda est à la réalisation de cette émission. Et voilà, et Billy Landry Lambetou est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute. D'Okapi Service, Dieudonné Nyangasa, pardon, est à la prise de son.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les causes et les pistes de solutions contre la dégradation du sol en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de monsieur Rigen, Joseph Rigen Falassi Nitou. Il est chef de travaux à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Monsieur le chef de travaux, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on entend par la dégradation du sol? Monsieur le chef de travaux, est-ce que vous nous recevez? Monsieur Rigen, Joseph, voilà, est-ce que vous me recevez?
Oui, c'est à peine que je vous reçois.
Parfait. Donc, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Quelles sont les causes et les pistes des solutions de lutte contre la dégradation du sol en RDC? Nous en parlons dans cette première partie avec le chef des travaux, Joseph Rigen Falassi Nitou. Il est enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati, merci beaucoup.
Voilà, nous allons d'entrée de jeu, dites-nous, que devons-nous comprendre par les termes composés dégradation du sol?
Merci beaucoup Monsieur Tati. D'abord, avant de définir dégradation du sol, même la restauration, je voudrais d'abord signaler que cette thématique, au niveau international, est prise en charge par une convention des Nations Unies. C'est la convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification qui a été signée à Rio en 1992 à côté des deux autres conventions, à savoir la Convention sur la diversité biologique et la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques. Alors, cette convention ne parle pas que de dégradation des sols. Elle parle de la dégradation des terres, c'est-à-dire à côté des sols. Elle aborde aussi ces sols abritent, mais aussi l'eau. Mais je pense que dans le cadre de cette émission, nous, on s'attarde sur la dégradation des sols.
Exactement.
Alors, elle est définie comme une détérioration des propriétés des sols qui entraîne une diminution de sa capacité à fournir de biens et de services. Les services fournis par les sols, tout comme les autres écosystèmes, on les appelle des services écosystémiques. Donc, quand le sol perd ses propriétés et qu'il ne peut plus fournir ses services et ses biens, on dit qu'il y a dégradation des sols. Alors, ces services sont notamment la nourriture, la filtration de l'eau, la séquestration du carbone, etc. Voilà.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les facteurs qui peuvent occasionner la dégradation du sol ou de la terre?
Ok. Alors, quand vous posez la question sur les facteurs, je voudrais répondre en deux volets. Mmh. Aborder d'une part ce qu'on peut qualifier de formes de dégradation, mais aussi ce qu'on peut qualifier de causes de dégradation. En ce qui concerne les formes de dégradation, on a d'une part ce qu'on appelle la dégradation physique. On peut aussi avoir une dégradation chimique et une dégradation biologique. La dégradation physique, c'est comme la compaction. Quand le sol se compacte, quand le sol, en termes simples, se bouche, les pores de sol sont bouchés, ça c'est une forme de dégradation physique. L'érosion, quand le sol se détache et est déplacé d'un endroit à un autre, il s'agit de la dégradation du sol sur le plan physique.
Oui.
L'imperméabilisation. C'est vrai que de nos jours, surtout dans les cités, on est content de mettre des pavés sur le sol. Mais non, l'imperméabilisation, c'est aussi une forme de dégradation du sol, parce qu'on perd le sol en le couvrant des pavés, en mettant les pavements partout, comme on a l'habitude de le faire dans les villes. L'engorgement d'eau, c'est aussi une forme de dégradation physique, lorsque le sol est complètement inondé et qu'on ne sait pas l'utiliser. À côté de cela, la dégradation chimique, c'est notamment l'acidification, lorsque le sol s'acidifie, ou son pH devient de plus en plus bas. La salinisation, ça ne concerne pas beaucoup le sol
de la RDC,
mais c'est beaucoup plus le sol des régions arides, hein, où le sol devient, au contraire de la salinisation, il devient salin. Le contraire de la acidification, allais-je dire. Alors, la contamination, c'est aussi une forme de dégradation chimique, lorsque des substances chimiques s'accumulent dans le sol en très grande quantité. Alors, la dégradation biologique, c'est notamment la perte des matières organiques, parce que les matières organiques, c'est les moteurs centraux pour le fonctionnement d'un sol. Lorsque la teneur en matière organique d'un sol devient trop bas, il s'agit d'un cas de dégradation biologique, mais aussi lorsqu'il y a réduction de la biodiversité, hein, la densité, la présence de êtres vivants dans les sols, ça c'est une sorte de dégradation biologique. Alors, je m'en vais parler des causes. On doit aborder ces causes au niveau international ou de la RDC seulement?
Au niveau mondial, et puis nous allons chuter par la RDC.
Ok. Au niveau mondial, les causes sont multiples. La croissance démographique. Mmh. Avec la croissance démographique, il faut notamment trouver de logements, des infrastructures pour les surplus de
la population.
Les gens qui habitent, généralement, la population qui habite les zones urbaines, parce que la croissance démographique s'accompagne généralement aussi de l'urbanisation. Alors, avec cette urbanisation qui n'est pas contrôlée, les sols vont être dégradés, parce que les gens vont produire des déchets, les gens vont couvrir les étendues des terres, les imperméabiliser, etc. Donc, la croissance démographique couplée à l'urbanisation est déjà une cause majeure des dégradations des sols à travers le monde. Il y a aussi l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, notamment en Occident, avec l'usage massif des engrais chimiques ou des engrais inorganiques, des pesticides, etc. C'est une cause majeure de la dégradation des sols à travers le monde. L'irrigation aussi, lorsque elle n'est pas bien contrôlée, elle provoque la dégradation des sols, notamment la salinisation. Une autre cause, c'est les autres industries, notamment l'industrie chimique, l'industrie minières, mmh. avec les déchets que ces industries produisent. Lorsque ces déchets ne sont pas bien gérés, lorsque ces déchets ne sont pas transformés ou
recyclés
dans des bonnes conditions, mmh. ils peuvent dégrader les sols. Alors, dans nos conditions où on ne pratique pas en grande échelle l'agriculture intensive, mmh. l'agriculture surbrûlée, l'agriculture itinérante surbrûlée est aussi une cause de dégradation des sols. Les feux de brousse sont une cause de dégradation des sols. Les surpâturages, lorsque le nombre de bêtes sur une surface dépasse ce qu'on appelle la capacité de charge de cette surface de sol, ces surpâturages est aussi une cause importante de dégradation des sols à travers le monde. Voilà, de manière ramassée, quelques causes importantes de dégradation des sols à travers le monde.
Donc, au centre de cette dégradation accélérée, c'est l'homme, c'est lié aux activités de l'homme, au fait.
Exactement. C'est vrai que la dégradation a deux causes reconnues. Il y a des causes naturelles, hein, liées au climat, notamment. Lorsque les climats changent, mmh. notamment en termes d'une sécheresse fréquente, ça c'est pas l'homme qui cause cette sécheresse, mais mmh. La conséquence sera notamment la dégradation. Mais les causes les plus importantes sont humaines ou anthropiques. C'est beaucoup plus par l'action de l'homme que les sols se dégradent à travers le monde.
Monsieur le chef des travaux, dans cette émission, nous donnons également la parole aux auditeurs, hein, la parole à la population. Donc, vous allez garder l'écoute, le temps pour nous d'aller au standard, afin de donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent de partout. Quels sont les facteurs à la base de la dégradation du sol en RDC et les pistes et les solutions? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Monsieur Joseph Rigel Falassi. Nous rappelons qu'il est chef des travaux à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-716-9941.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse. Vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Nous prenons les deux premiers auditeurs en ligne. Les premiers, il appelle depuis la ville de Lubumbashi, il s'appelle Justin. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
C'est Mapuku, c'est Justin Kouloubou de Fungurume. Hein? Ok. J'interviens par rapport à la thématique du jour aujourd'hui. Il y a de sérieux problèmes puisque la population ne savent pas bien protéger cette terre. J'ai suivi notre invité à la radio Capi, il a tout marché là-dessus, sauf qu'il a dit que la population n'est pas un grand facteur de la dégradation du sol. Non, la population aussi, nous y sommes. Prenons l'exemple pour les miniers. On amène les acides, on amène que quoi que ce soit. Et s'ils terminent avec ça le travail, on les laisse asperger partout et l'acide dégrade aussi les sols. Ensuite, nous avons le feu de brousse. Quand vous quittez Ngouba vers le village là, pour faire les champs, il faut brûler le bois ou soit faire le champ de surbrûlure. Mmh. Alors ça aussi, ça dégrade aussi les sols. Et les gens qui cherchent les gibiers, les chasseurs en brousse, je me rappelle
ils
bien chez nous,
ils pratiquent le feu de brousse, en fait. Oui.
Pendant une saison, on fait d'abord le coupe-feu avant le mois de mai ou soit de mars. Et après, au moins à la sécheresse, on appelle tout le monde pour aller brûler les hectares là et pour attraper les rats, les antilopes, ainsi de suite. C'est pratique aussi, c'est fait ici chez nous. Quand il y a les moments comme ça, on commence à brûler pour faciliter la recherche des gibiers. Et aussi, nos dirigeants, ils doivent vraiment veiller à la protection du sol. Si, bien sûr, on va les mettre en jachère, le nombre qui se concentre en ville pour être des consommateurs seulement, au lieu de rentrer, il y a encore les espaces vides. Vous cultivez 2 mois ici, 3 mois, vous allez encore ailleurs. Si vous vous concentrez en ville, les hectares que vous aurez à cultiver par an, il n'y a pas moyen de les laisser et aller ailleurs. Mmh. Si vous pouvez, vous voulez aller ailleurs, d'ailleurs, c'est coûteux, on vous vend ça très cher. Si nous allons dégorger les villes pour entrer aussi au village.
Désengorger
les
villes.
On peut avoir le temps de mettre.
Oui.
Oui, on peut avoir le temps de mettre en jachère nos champs. Pour le moment, en ville, c'est pratiquement impossible, mais c'est joli. Je l'ai dit, je prends tout le monde qui suit la radio Capi à ce net moment, s'il peut me contredire de ce que je viens de poser comme commentaire à la radio Capi. Merci, monsieur Tati Mapouk. Je remercie aussi notre invité.
Oui, monsieur Nkoulou, dites-nous, vous êtes à Funguru, mais quel état de lieu faites-vous de la dégradation du sol dans cette partie du pays? Est-ce qu'il y a des ravins? Est-ce que dans les sites miniers, il y a des sols, des terres dégradées à l'état d'abandon?
Oui, monsieur Tati Mapoukou, c'est moi la parole?
Oui, je disais ceci. Je vous ai relancé, je voulais savoir. Oui. Je voulais savoir, vous qui êtes au niveau de la ville de Fungurume. Nous savons qu'il y a des entreprises minières dans la région. Est-ce qu'il y a des sols dégradés? Est-ce qu'il y a des têtes d'érosion dans cette partie du pays?
Oui, effectivement. Vous voyez que l'érosion commence par le montagne et ça se déverse vers le milieu plat. Et les montagnes sont diguées, les rivières qui quittent les montagnes sont diguées, même s'il y a les eaux de la pluie, l'eau n'arrive pas à atteindre les villages à moindre pression. Quand ils sont digués, donc il y a des ravins partout, naissance des érosions sur les endroits même qu'on ne s'attendait pas. Et aussi à Fungurume, il y a des champs de surblurie partout qu'ailleurs, même dans les territoires des Bukama. Donc ici, on n'a pas suffisamment des intrants. Si on a ces intrants, il faut brûler pour avoir des maïs. Alors, avec les maïs sur blurir, on oublie qu'il y a la dégradation du sol. Et ensuite, il y a les acides, puisque les miniers utilisent beaucoup des acides. Si vous avez vécu même les camps malheureux à Kakanda, les acides ont quitté les bassins pour aller dans les villes, dans les maisons. Ça a causé même des pertes en vie humaine. Sinon, l'État doit veiller comment assister les agriculteurs pour qu'ils arrêtent avec les
champs de
surbrûlure.
Oui.
Oui, oui.
Merci
et
beaucoup.
Aux miniers aussi de savoir canaliser les matières utilisées ou soit désaffecter les acides et chercher là où ils vont jeter ça. Parce qu'on les laisse parfois, nous commençons à subir comme on n'a pas des appareils, on commence à subir des histoires là qui nous amènent peut-être à des maladies inconnues. Vous avez compris les fameux quartiers Manumapia de Fungurume, là où il y a eu même des pertes d'envies humaines.
Oui.
Et même les érosions.
Des maladies cutanées, des érosions.
Oui. Et les acides utilisés et les débris des histoires utilisées dans les usines, où est-ce qu'on peut les jeter? On les jette, les gens partent là-bas ramasser pour des morceaux de bois et des morceaux de ferron pour encore les réutiliser. Les histoires qui étaient, et peut-être on n'a pas de matériel, on les prend à la main libre. Ça cause aussi des problèmes. Notre sol, c'est notre patrimoine que nous devons gérer soigneusement. Ça ne dépend pas de quelqu'un, c'est notre sol privé. Et s'il y a des dégradations, c'est nous qui perdons.
Sinon, merci beaucoup.
C'est ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, M. Nkoulou. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Fungurume que vous nous appelez. Cette fois-ci, partons à Lubumbashi pour donner la parole à M. Ismaël, à qui nous disons bonjour. M. Ismaël, vous êtes en ligne. Mupoi, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi? Malheureusement, il est loin de son téléphone apparemment, donc nous retournons au studio pour donner la parole à notre invité.
Non, c'est moi.
On me signale que M. Malonga, alors, oui, nous vous recevons 5 sur 5. Vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Oui. À vous la parole.
Ok, merci beaucoup Tati. Je vous remercie beaucoup. Je vous encourage avec le sujet très pertinent qui nous guette, nous les humains. Bon, il y a ceci. Mon frère qui vient de dire, bah, vraiment, il commande ce qu'il doit faire. Moi aussi, j'ai suivi très bien l'invité, mais là où il avait dit que la cause principale est humaine pour la dégradation du sol ou de la terre. Mais moi, je vois que notre terre, notre planète est tellement vieillie. Depuis sa création, selon l'histoire de cette terre, en tout cas la terre est vieillie. Moi, je me suis retrouvé dans une grande forêt équatoriale. Mais j'ai vu comment est-ce que les montagnes se déplacent. Les montagnes ont formé vraiment des petits lacs au milieu de la forêt. Si ça glisse comme ça, ça barre les ruisseaux, et ces ruisseaux-là manque à se couler en cause et jusqu'à présent, il y a un petit lac là-bas. Cela montre que même sans pour autant citer l'usage de l'homme, mais la terre est le même.
Oui, mais Monsieur Malonga, l'invité l'a relevé. Les causes peuvent être humaines et elles peuvent également être d'origine naturelle. Au fait, l'invité l'a relevé dans son introduction.
Ok, ça va. Pour maintenant garantir ça ou bien protéger ça, c'est par là où nous allons recourir seulement à la gestion étatique. Oui, c'est l'État qui doit avoir protégé la terre. Puisque la terre a été déjà divisée, chaque État a sa portion, chaque province, chaque territoire, chaque localité, et nous arrivons même en parcelle. Mais aujourd'hui, l'État environnemental n'est pas bien poursuivi. Vous savez, le ministère de l'Environnement, c'est ça son rôle, c'est l'agriculture. Le ministère se veut beaucoup sur l'agriculture, mais moi je veux parler sur l'environnement. C'est l'assainissement qui veut protéger vraiment l'état du sol. Mais le peuple aujourd'hui, le monde entier, ne sait pas, en majorité, ne sait pas tenir les milieux où il habite. Pourquoi cela? Aujourd'hui, nous ici, en République démocratique du Congo, ici quand même, ici d'abord à Kinshasa, Tati, si vous vous promenez, vous êtes d'ici, si vous vous promenez dans des communes à part Gombe et Lingwala, vous allez voir comment est-ce que la population elle-même sabote les milieux où ils vivent. Et puis, l'État est là, le service est là, qui pouvait vraiment insister et instaurer et imposer la loi pour la gestion des milliers. Alors, ça, cette négligence-là, on peut regretter, et il n'y a pas la politique aussi de désambroger le vide. Selon moi, je vois que la capitale de Kinshasa doit être délocalisée pour permettre vraiment au sol d'ici à respirer et avoir aussi des espaces. Mais comme la population vient seulement se réfugier ici et se réfugier dans des grandes villes, en tout cas, on peut se voir, chaque jour, nous déplorons des morts à Bukavu. Pourquoi? Parce que c'est une ville montagneuse, l'État laisse la population se gonfler dans des montagnes-là, et en cas de la pluie, il y a l'érosion, et puis surtout, on va finir seulement déplorer, c'est là. Mais il faut prévenir. Il faut prévenir d'abord pour protéger ce que vous avez. Alors cette politique-là, c'est qu'il faut que l'État, même le Conseil des ministres, on doit s'asseoir et ça pour raisonner comment on peut protéger notre sol.
Merci beaucoup, M. Malonga.
Merci
beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous appelez, vous intervenez. Oui. Donc, vous avez tablé si il se pose un problème sérieux de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que de l'assainissement des milieux. L'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Monsieur le chef des travaux, comment répondez-vous à Justin Koulou de Fungurume?
C'est le premier intervenant, excusez-moi.
Exactement. Excusez-moi, monsieur le chef des travaux, je retourne au standard, donner la parole à un auditeur qui vient d'entrer en ligne. Donc, il s'appelle Omar, il intervient depuis la ville de Kinshasa. Omar, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci, monsieur Tati Mapoukou, et bonjour à l'invité.
À vous la parole. Allez-y, on vous écoute.
Merci beaucoup, le sujet est intéressant, comme nous l'avons toujours dit, c'est d'ailleurs notre loi fondamentale qui les dispose. Tout Congolais, peu importe son parti politique, sa tribu ou encore sa couleur de peau, a droit à un environnement sain. Et lorsqu'on parle de l'environnement, on voit 13 éléments principaux. L'eau, l'air et le sol dont nous parlons aujourd'hui. J'ai dit merci beaucoup à l'invité qui a déjà planté les décors, mais il s'est plus limité aux causes. Puisque les causes ont été élucidées, il faut maintenant penser aux solutions.
Oui.
Merci à l'invité pour cela. Moi, je pense, M. Jody, procéder par l'approche légale. Pardon, M. Tati. La loi du 9 juillet 2011 portant protection. Il y a également une autre loi qui parle de l'agriculture. Cette loi punit et sanctionne sévèrement toute personne qui s'évertue à jeter les déchets sur le sol. Comme l'invité l'a dit, l'environnement n'est pas seulement un cadre de vie, mais aussi une source de revenus. Il est censé être propre, même soit possible. Voilà pourquoi ces deux lois, la première qui protège l'environnement et la seconde qui protège l'agriculture, punit. Mais est-ce que les gens sont là sur terrain? Est-ce que la politique environnementale existe? Est-ce que la police fait son travail? Deuxième chose, monsieur Tati, il y a un problème d'éducation environnementale et agricole. Les choses que l'invité dit sont fondamentales. Mais est-ce que la population est informée de cela? Voilà pourquoi je remercie votre émission. Est-ce qu'on peut vraiment passer, dire aux gens que lorsqu'on jette les déchets sur le sol, voilà les conséquences sur la vie humaine? Il faut sensibiliser au-delà de la radio KPFR. Et enfin, par rapport aux déchets, il y a un autre problème, surtout à Kinshasa. Si vous allez vers Masangambi, la Mongafula, il y a beaucoup d'érosion. Beaucoup de gens ont perdu leur maison et ont pu migrer ailleurs. C'est parce que l'État ne sait pas organiser la gestion des déchets. C'est lui qui était là comme gouverneur, s'est plaint de la même chose ici à Kin. Il y a un problème sérieux. Au-delà de la sanction légale de ceux qui gèrent mal les déchets, au-delà de la sensibilisation, il faut que l'État s'évertue vraiment à organiser les déchets. Alors, j'ai fini rapidement avec mes deux questions parce que l'émission m'est intéressante. Monsieur l'invité, vous avez parlé de la dégradation du sol. Je voudrais vraiment que vous puissiez marteler parce que les décideurs vous suivent. Quelles sont les conséquences réelles ou l'impact réel sur la vie humaine lorsque le sol est dégradé? Deuxième question pour finir. On parle actuellement des déchets dégradables et non biodégradables. Alors, quelles en sont la différence et comment on peut gérer cela? Merci à vous, Monsieur Tati, de m'avoir adjugé le verbe.
Merci beaucoup, Maître Omar. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous appelez. On le signale, les standards nous signalent que Ismaël est là, donc on va lui donner la parole avant de remettre la parole à l'invité. Monsieur Ismaël, on vous écoute. Vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Soyez les bienvenus.
Bonjour Tati, bien que je suivais Maître Omar avec les crachements là, je pense, et ça va.
Très bien, on vous écoute au 5 sur 5.
Oui. Je pense que le peuple congolais a perdu tout sens de protection de l'environnement. Je m'attelle si c'était le degré du premier, du ministre plutôt de l'environnement qui avait interdit la production du sachet non dégradable. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous êtes dans une ville telle que Lubumbashi, Kinshasa et d'autres villes. C'est étonnant, c'est regrettable. Vous voyez les sachets de tout genre. C'est ça le premier appauvrissement du sol. Je vous dis, cette mesure, si elle était appliquée, ça peut avancer, ça peut donner, faciliter la terre à se fertiliser. Mais je vous dis quelque chose, c'est dont moi j'ai fait chez moi. Je ne peux jamais permettre à ce qu'il y ait les sachets. Je me donne la tâche de ramasser chaque matin et puis je les brille.
D'accord.
Les mèches pendant cette saison que nous sommes pendant la période de vacances ici, ça coupe les poules, les jambes, tout. C'est compliqué là. Je me donne la tâche de ramasser et d'incinérer. Mais ce qu'il faut faire avec la population, c'est une conscience. Je ne m'invente pas, mais je vous donne quelques exemples. Dans des pays anglophones, vous êtes soit à notre pays ennemi, au Rwanda, vous êtes en Zambie, vous êtes en Afrique du Sud. C'est réglé. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui paye les choses en bouteilles plastiques, en sachets ou en matières non dégradables. Non, c'est interdit. Tout dépend de la responsabilité de l'État. Si vous êtes à Kinshasa, c'est étonnant. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec les sachets. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une conscience que nous appelons. Les peuples congolais doivent prendre la conscience. Parce que si vous êtes dans un terrain où vous n'avez que des sachets, ça prend autant d'années pour se dégrader. Ça ne se dégrade même 150 ans.
Oui.
C'est compliqué. Mais pour ceux qui font l'agriculture, faire un champ par brûlis, ce n'est pas un problème parce que c'est une source aussi de chaleur qui ferait en sorte à ce que quand il y a l'abondance des pluies, pourvu que les plantes aient aussi cette chaleur et elles puissent se développer. Ça, c'est dans un autre sens. Mais si l'environnement non cultivé, je vous dis, nous appelons à une conscience congolaise. Sinon, on ne peut rien faire. Vous avez des cours d'eau, vous avez des petites sources d'eau. Ce sont des bouteilles en plastique. Quand il pleut, c'est que l'État nous vienne au secours. Mais c'est l'État ou c'est nous-mêmes qui causent des préjudices ou qui s'attirent de l'ostracisme. J'appelle vraiment qu'il a fallu qu'on commence par produire les objets dégradables. Cela permettra à ce que les sols puissent aussi avoir quelque chose. Mais ce que Malonga dit depuis que notre environnement est déjà... Je ne sais même pas s'il y a un système dont on peut remplacer cette planète par une autre pour qu'on ait la fertilité. Nous avons des sociétés minières, nous avons des véhicules, des engins de tout genre qui polluent l'environnement. Mais nous avons aussi le réchauffement climatique. Tout ça entre en jeu.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Merci beaucoup, monsieur Mopoyi. Oui, vous faites allusion à l'éducation.
Merci beaucoup,
monsieur Ismaël Mopoyi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Vous faites allusion à l'éducation environnementale et surtout à l'assainissement des milieux. Merci d'avoir intervenu depuis la ville de Lubumbashi. Avant de donner la parole à Bienvenu Kinkala qui nous a appelé depuis Boulungu, nous retournons aussi au studio. Monsieur Bienvenu, gardez l'écoute. Nous allons vous donner la parole. Monsieur le chef des travaux, est-ce que vous nous recevez?
Oui, je vous reçois très bien.
Parfait. Dites-nous, comment répondez-vous à Justin Koulou de Lubumbashi, de Fungurume, pardon, qui a dit que c'est l'homme qui est en grande partie responsable de la dégradation de la terre, de la dégradation du sol à Fungurume, par exemple, les entreprises minières qui opèrent là-bas, ils ne respectent presque pas les normes environnementales, ce qui fait que après les activités ou lors des activités, la terre se dégrade rapidement.
Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il n'a peut-être pas bien suivi ce que j'ai dit. Nous disons la même chose. C'est l'homme qui est la première cause. Je l'ai dit. Donc, les premières causes sont anthropiques. J'ai utilisé l'adjectif anthropique, donc les causes humaines. Mais on associe à cela aussi des causes naturelles. Je n'ai pas dit que les causes naturelles étaient prépondérantes. Donc, on dit la même chose avec lui. Alors, je voudrais aussi réagir par rapport à un autre auditeur qui a dit que on ne peut rien faire. Dans les forêts, il voit que des montagnes se décapent. Oui.
Oui, l'auditeur de Kinshasa, monsieur Malonga, oui.
Exactement. Donc, mais les causes anthropiques à travers les mondes sont toujours plus prépondérantes. Donc, je voudrais les rassurer aussi. Et, quand on parle de l'État, qui ne fait pas appliquer la loi, oui. C'est d'ailleurs ce que dit l'État congolais lui-même. L'État congolais, a pris en charge le dossier du problème de la dégradation des terres à travers un document qui a été publié en 2006 qui est intitulé « Programme d'action nationale de lutte contre la dégradation des terres et la déforestation ». Dans ces documents, l'État congolais lui-même précise qu'il y a deux catégories d'acteurs de la dégradation des sols. Il y a des acteurs qui sont actifs, la population, les industriels, mais aussi des acteurs passifs. Des acteurs dont l'inaction favorise la dégradation. L'État congolais, qui ne fait pas de suivi de ces lois, notamment la non-application à ce qu'on appelle le résultat des études d'impact environnemental et social. Après ces études, chaque entrepreneur est censé appliquer un plan de gestion environnementale et sociale, notamment les miniers. Mais l'État congolais ne suit pas l'application de ces plans de gestion environnementale et sociale, dont l'État est aussi un acteur passif. Donc tous ceux qui ne font pas appliquer la loi, les ONG, le partenaire de développement qui sont peut-être pas assez efficaces dans ces domaines, donc tous ceux-là sont des acteurs passifs à côté des acteurs actifs de la dégradation. Mais aussi, un auditeur a parlé de mauvaises mentalités, de mauvais comportements de la population. Oui, il a amplement raison.
Maître Omar notamment. Et il a voulu également savoir.
Maître Omar.
Il a voulu également savoir la différence qu'il y a entre les déchets dégradables et non dégradables.
Oui, j'allais arriver à ces.
Parfait.
À ces questions. Donc, déjà, il a raison. Donc, la dégradation des sols ne peut pas s'estomper si on ne change pas de comportement. L'État doit réguler la société, mais beaucoup de problèmes trouveront solution aussi par des comportements personnels, individuels de la population. Alors, il a posé deux questions. La première, quelles sont les conséquences de la dégradation des sols sur notre vie? Alors, pour donner une réponse claire à cette question, il faut savoir ce que le sol fait pour nous. C'est grâce au sol que nous avons la nourriture. C'est grâce au sol que nous avons le pâturage qui nourrit le bête d'élevage. C'est le sol qui filtre l'eau. C'est le sol qui fait que l'eau soit purifiée des impuretés. C'est le sol qui abrite une grande partie de la biodiversité terrestre. Alors, si le sol est dégradé, le sol devient incapable de remplir toutes ses fonctions. les agriculteurs n'auront plus de bons rendements, l'eau sera de plus en plus contaminée,
polluée, oui.
J'ai oublié un élément essentiel. Le sol fait aussi l'objet de la séquestration du carbone. Donc, le réchauffement climatique sera de plus en plus important si le sol se dégrade. Donc, il y a des conséquences tant directes, dont le manque de nourriture, mais aussi des conséquences indirectes, le réchauffement climatique, qui aura des effets rétroactifs sur notre vie. Alors, les déchets biodégradables et non biodégradables. Les déchets dégradables sont ce qu'on appelle aussi des déchets putrescibles, des déchets qui peuvent se décomposer grâce à l'action des micro-organismes, des déchets qui peuvent se fermenter. Alors, ces déchets-là, c'est notamment les déchets de cuisine, les restes des repas, les légumes, et tout cela, tous ces déchets qui peuvent se décomposer. On les utilise notamment pour produire du compost, pour produire du biogaz, le gaz méthane, etc. Les déchets non biodégradables, c'est des déchets comme le plastique, comme les verres, comme les métaux.
Les métaux.
Ceux-là, on les valorise autrement.
Les sacs en plastique. Les métaux,
on les valorise autrement, notamment par les recyclages. C'est ce que fait, ce que font, par exemple, certaines entreprises à Kinshasa. Voilà. Je peux continuer à répondre aux auditeurs?
Allez-y, allez-y.
Ok. Alors, qu'en est-il de l'interdiction de l'utilisation, de la fabrication et de l'utilisation du sachet non biodégradable à Kinshasa? Je pense que cet auditeur a amplement raison. Hein, c'est ce que j'ai dit tantôt. L'État congolais, quelque part, un acteur inactif, un acteur passif de la dégradation, parce que il ne fait pas le suivi de ses propres lois, il ne les fait pas appliquer. Donc, l'application, le suivi de cette loi aurait beaucoup évité la dégradation des sols. Monsieur Ismaël a amplement raison en disant que, à la maison, à domicile, nous devions déjà savoir bien gérer nos propres déchets. Bien gérer le déchet à domicile faciliterait la tâche à la municipalité, faciliterait la tâche à
l'État, collecte, dont les moyens déjà sont,
ou les collectes de traitements sont très faibles. Et je dois marteler peut-être pour dire que la collecte, c'est une solution moins bien meilleure que la faible production des déchets. C'est vrai que on peut valoriser les déchets pour leur donner un autre usage, mais la meilleure solution, c'est de les produire de moins en moins. Parce que cette valorisation des déchets consomme aussi de l'énergie. Donc, juste une parenthèse. Mais je suis pas d'accord avec l'idée de M. Ismaël d'incinérer tous ces déchets. Peut-être qu'il n'a pas d'autre solution, parce que l'incinération résout un problème pour en créer un autre, de la pollution de l'air, en voulant se débarrasser des déchets. Donc, ce n'est pas une solution vraiment durable.
Monsieur le chef de travaux, s'il vous plaît. Oui, nous allons retourner au standard. Hein. On donne la parole à un auditeur qui intervient de Boulungu. Il s'appelle Bienvenue. Bienvenue, d'accord. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Kikala, nous vous écoutons.
Bonjour, cher l'invité.
Allez-y, oui, à vous la parole.
J'étais en train de dire qu'il fallait d'abord considérer les sols comme étant un être humain qui naît, grandit et peut mourir par moment. Le sol ici est issu de la sédimentation de la roche, mais je crois l'invité serait d'accord avec moi. Mais néanmoins, les comportements ou les activités peuvent favoriser la dégradation assez vite du sol. Je prends un exemple, l'invité l'a si bien souligné là-dessus. Nous utilisons les sachets qui sont des déchets non biodégradables. Par moment, ça peut créer des zones d'asphyxie pour que le sol ne respire pas. Ok, si le sol ne respire pas, c'est facile qu'il soit un peu précipité par rapport à son cycle de vie. Autre chose aujourd'hui, parmi les causes de dégradation du sol ou des érosions, nous voyons, à l'époque, il y avait des espaces verts dans des grandes villes. J'ai pas l'exemple de la ville de Kikwit où j'habite. Il y avait une bande entre les quartiers résidentiels appelés communautaires de ville et les centres commerciaux à la ville basse. Il y avait vraiment une grande portion d'été où les gens, à l'époque, les blancs, les gens ne construisaient pas. D'accord. Aujourd'hui, on a loti toutes ces parties-là. Maintenant, la ville de Kikwit, le centre-ville est confrontée. À chaque fois qu'il y a des pluies, il y a des inondations, il y a des maisons qui sont écroulées. Donc, en réalité, comme disait notre invité, c'est l'homme qui est à la base de beaucoup de dégâts que nous observons actuellement dans l'environnement. Je crois une bonne éducation environnementale qui commence d'ailleurs dans nos familles peut faciliter à ce que j'essaie de réduire des risques liés à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on est tous, on essaye de connaître l'état, mais sans toute façon, nous-mêmes, nous nous fixons là où on devait trouver la solution, tant soit fait à notre niveau. Là où c'est bien passé, c'est lui le pouvoir régulateur, mais si nous pensons que la solution viendrait que de l'état, nous autres, on n'a pas de solution qu'on peut apporter, on ne trouverait aucune solution.
Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Kinkala. Vous habitez Kikwit, mais là, vous intervenez depuis la ville de Bulungu. Excellent début de week-end. Monsieur le chef de travaux Falassi, comment répondez-vous à notre auditeur de Bulungu?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc, le sol peut se dégrader naturellement. C'est un processus naturel de dégradation, mais l'homme accélère ses rythmes. Parfaitement d'accord avec lui. Oui. Parfaitement d'accord avec lui aussi en rapport avec l'importance des espaces verts ou des zones tampons sur la lutte contre la dégradation. Hein, ces zones tampons peuvent notamment servir de réceptacles des déchets. Lorsque on lotit partout et que ces zones tampons n'existent plus, alors les déchets peuvent maintenant s'accumuler dans le sol. Donc c'est une stratégie très importante qu'on a abandonnée, de laisser des espaces verts, des zones tampons. Et qui malheureusement nous rattrape aujourd'hui.
Oui, mais il a également fait une analyse, hein, une analogie en disant que il faut considérer la terre comme l'homme. Il naît, il grandit, il vieillit et puis voilà.
Oui, le sol vieillit comme le sol de la RDC des zones chaudes. On dit qu'ils sont des sols vieux comparativement au sol des régions tempérées par exemple. Mmh. Cette analogie tient. Donc, comme il dit aussi, par nos actions, on peut soit retarder ou
soit
accélérer
la dégradation.
Mais ce qui est mieux pour nous, c'est de retarder.
Merci beaucoup, monsieur le chef de travaux. Dites-nous alors, nous allons passer aux solutions. Est-ce qu'il y a des solutions efficaces de la lutte contre la dégradation de la terre ou du sol?
Bien sûr qu'il y en a. Avant de parler en détail des solutions, permettez-moi de planter les cadres de ces solutions.
Je vous en prie, allez-y.
Alors, il faut d'abord dire qu'à l'échelle internationale, comme je l'ai dit, il existe une convention des Nations Unies pour la lutte contre la dégradation des terres. Et l'objectif fixé était 2030. Il fallait atteindre d'ici 2030 ce qu'on a appelé la neutralité de la dégradation des sols, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de sols dégradés d'ici 2030. Et cela rejoint le 15e objectif du MNEP de développement, cible 15-3. Et lors de la COP26 à Glasgow, 115 pays du monde, dont la RDC, ont porté à bas le corps cette recommandation. Ces pays se sont fixés l'objectif de restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Et cela rejoint aussi les engagements de la RDC dans ce que j'ai noté comme son programme de lutte contre la dégradation qui a été publié depuis 2006. Alors, avant de parler de solutions, je voulais dire aussi que cette lutte contre la dégradation coûte surtout la restauration. Par exemple, pour l'échelle internationale, il faut au moins 1600 milliards de dollars pour restaurer ces 1 milliard d'hectares de terres dégradées. Mais ça vaut la peine d'investir dans la lutte contre la dégradation des terres parce que $1 investi pour la lutte contre la dégradation en rapporte 7 à 30 autres. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors, la RDC, dans son programme de lutte contre la dégradation, a ciblé certaines solutions.
Lesquelles?
Sur le plan théorique, c'est de renforcer les capacités des acteurs. Les acteurs, les chercheurs, les fonctionnaires du ministère, tous ceux qui sont appelés à réaliser ces suivis, il faut renforcer leur capacité. Il faut réaliser un suivi permanent du processus de dégradation des terres. Parce qu'on ne doit pas seulement constater des dégâts. Il faut que le suivi soit permanent pour éviter que la dégradation des sols elle continue. Il faut approfondir des recherches sur la connaissance de ces sols et il faut promouvoir une gestion participative et décentralisée de ces sols.
Monsieur le chef de travaux, est-ce que ici en RDC, un état des lieux des sols dégradés est déjà établi?
Non, à ma connaissance. Même en 2006, lors de l'établissement de ces programmes nationaux, les données fiables n'existaient pas. Mais il faut signaler qu'il existe quand même des recherches menées par-ci par-là, par des Congolais dans les différentes universités du pays. Et malheureusement, ces résultats ne sont pas généralement centralisés pour donner une stratégie cohérente. Mais au moins, si je peux aborder des exemples, il y a quand même des exemples concrets des luttes contre la dégradation en RDC. Je ne sais pas si c'est le lieu déjà de les évoquer.
Allez-y, allez-y.
Ok, par exemple, à Kikwit, je pense qu'un auditeur de Kikwit nous avait appelé.
Deux auditeurs,
plusieurs projets, plusieurs auditeurs d'ailleurs. Depuis 2010, ils ont sûrement vu que plusieurs projets de lutte contre les érosions ont été réalisés avec succès, notamment en utilisant une plante qu'on appelle les vétivers pour arrêter la progression de certains ravins à Kikwit. Ces mêmes vétivers a été utilisé sur la route numéro 1, que ce soit
la route nationale,
en allant vers le Congo central, national numéro 1 en tout cas,
exactement, oui.
Que ce soit dans la direction vers le Congo central ou vers Kikwit. Le long de cette route, les vétivers est planté pour protéger les talus. Il y a plusieurs projets où on a valorisé les bambous dans la lutte anti-érosive, notamment à l'université de Kinshasa.
Oui.
Dans le cadre de la lutte contre la dégradation chimique des sols.
Il y a également des grands projets d'agroforesterie au plateau de Bateke, au Nord Kivu, des projets de reboisement.
J'allais y arriver.
Ah, d'accord.
Exactement, j'allais y arriver à l'agroforesterie.
Ok.
Ok. Donc, il y a une plante qu'on appelle Titonia diversifolia. C'est une plante qui est assez riche en éléments minéraux dont les plantes ont besoin. Et cette plante a aussi été valorisée dans plusieurs provinces de RDC pour améliorer la fertilité chimique des sols dans des sols dégradés. Vous avez parlé de l'agroforesterie, oui, notamment avec les espèces du genre acacia. Mais là, bien sûr, il faut que les paysans disposent de superficies assez importantes parce qu'il faut laisser les sols en jachère améliorée pendant au moins 6 ans.
Oui.
Donc, il faut que les paysans aient des étendues supplémentaires où ils peuvent cultiver pendant cette mise en jachère des terres. Et ces projets ont été des succès, notamment pour Aïbi et comme vous l'avez dit, à Bukavu et de notre site en RDC. Au Katanga, l'Université de Lubumbashi notamment mène des recherches depuis longtemps sur la forêt des Miombo pour valoriser ces espèces forestières dans la lutte contre la progression du désert du Kalahari, contre la désertification. La même université a mené beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle des plantes hyperaccumulatrices, des plantes qui peuvent pomper des grandes quantités de polluants chimiques qu'il y a dans les anciens sites miniers, afin de rendre ce sol pauvre en ces éléments, hein, ce qu'on appelle la phytorémédiation ou la restauration de ces sols. Il y a par-ci par-là des exemples de réussites en RDC ou même en Afrique, mais il n'existe pas une vraie stratégie qui est mise en place pour lutter contre la dégradation en RDC, à ma connaissance en tout cas.
Monsieur le chef de travaux, nous retournons au standard, hein, restez en ligne, on donne la parole à un dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi, il s'appelle Achille. Achille, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Achille, bonjour, vous nous recevez?
Monsieur Tati, c'est gentil.
C'est plutôt gentil depuis la ville de Kananga.
Monsieur Tati,
on vous écoute, allez-y.
Oui, gentil depuis la ville de Kananga. Mais sauf qu'il y a des coupures chez vous là, vraiment, je ne parviens pas surtout à vous capter vraiment. C'est gentil depuis la ville de Kananga. Je voudrais seulement poser les 3 questions à monsieur l'invité, vraiment, qu'il nous dise surtout quelles sont les principales causes de la dégradation du sol. Je ne sais pas si vous me suivez, monsieur Tati.
Nous vous recevons 5 sur 5, allez-y.
Ok, alors que l'invité vraiment nous dise quelles sont les principales causes de la dégradation du sol. En plus, sur ces questions ici, vous l'avez posé, quelles sont les solutions pour lutter contre la dégradation des sols? Alors, quels sont les facteurs de la dégradation? Ce sont mes 3 questions que je voulais surtout poser à monsieur l'invité. Merci. C'est gentil depuis la ville de Kananga.
Merci beaucoup, monsieur Gentil. Nous rappelons que c'est depuis Kananga que vous intervenez. Monsieur le chef de travaux Falassi, comment répondez-vous à Gentil et en quelques mots des solutions efficaces? On est presque à la fin de notre entretien.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Gentil, pour vos questions. Les causes de la dégradation, on les a abordées. Je pense que quand vous n'étiez pas bien connecté, c'est notamment la déforestation, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'agriculture intensive, le surpâturage, le feu de brousse, l'exploitation minière industrielle et artisanale, l'urbanisation non maîtrisée, etc. Alors, les causes, Et ça, c'était les causes de la dégradation, les facteurs de dégradation.
Oui.
Allô?
Les solutions plutôt. Allons plutôt aux solutions efficaces.
OK. Les solutions efficaces, je pense que je les abordais déjà. Il y a des solutions liées à la loi. Il faut renforcer notre arsenal juridique. Il faut mettre en place des structures capables de suivre ces problèmes de la dégradation, parce que jusqu'à là, le suivi n'est pas efficient. Je rappelle que les problèmes de la dégradation touchent au moins 12 ministères de notre pays. Du coup, on ne sait pas qui est responsable de quoi et cette dégradation n'est pas bien suivie.
Oui, dernière question, dites-moi, monsieur le chef des travaux. Oui, s'il vous plaît, dites-moi, pensez-vous que d'ici 2030, nous allons atteindre les objectifs des ODD qui stipulent que d'ici 2030, éradiquer ou enrayer des sols dégradés parmi le pays membre des Nations Unies?
Sur le plan mondial ou pour la RDC?
Pour le cas de la RDC.
Non, je pense que non, parce que aucune stratégie réelle n'est mise en place. Et c'est impossible, en tout cas. Je dirais même impossible qu'on atteigne ça.
Oui, mais alors, quelles sont les quelques solutions efficaces que l'on peut faire pour améliorer, au fait, essayer d'augmenter le nombre d'actions liées à la lutte contre la dégradation du sol?
Oui, comme je l'ai dit déjà, sur le plan législatif, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, mettre en place une structure beaucoup plus capable de suivre cette dégradation, disposer d'un financement conséquent, parce que c'est le problème le plus important. On peut pas enrayer cette dégradation si on ne met pas en place de mécanismes de financement conséquents qui peuvent provenir de nos budgets annuels, mais aussi des fonds qui existent à travers les mondes, notamment les fonds verts pour le climat, qui peut financer la lutte contre la dégradation. Il existe un fonds qu'on appelle le fonds de la neutralité à la dégradation des terres. Il existe beaucoup de fonds disposés par les Nations Unies ou d'autres bailleurs qui peuvent aider à mettre en application tout ce que nous prenons comme recommandation contre la dégradation des terres. Il faut aussi valoriser, à mon sens, quelques recherches, quelques résultats qui sont obtenus par-là dans nos centres de recherche universitaires, peut-être qu'ils ne sont pas assez connus, notamment les solutions en rapport avec les titonias, les bambous, les vétivers. C'est assez simple de mettre en œuvre, mais il faut les recenser. Il faut les recenser. Et aussi, pour nous les chercheurs, il serait mieux que nous soyons en réseau. Nous soyons en réseau, que nous coordonnions, nous pilotions les différentes recherches que nous menons dans les cadres de la lutte contre la dégradation, afin d'être efficient, afin de ne pas répéter les mêmes essais et de proposer aux acteurs étatiques les solutions déjà testées sur terrain.
Joseph Origen Falassi Nitu, nous rappelons que vous êtes chef des travaux à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Merci d'avoir été avec Radio Okapi, spécialement Okapi Service, pour débattre de ces sujets liés à la lutte contre la dégradation ou la dégradation du sol ou de la terre. Merci d'avoir été avec nous et nous espérons que c'est pas la dernière occasion, c'est pas le tout dernier rendez-vous.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.